après de nous en parler un petit peu.
Allons-y.
Il semblait qu'il y avait des points qui se rejoignaient à la
place du doigt. Ah oui, il y en a beaucoup même.
On a échangé un courrier, c'est pour ça que je...
C'est demandé, c'est Patrick qui a amené ça.
Oui, mais vous l'avez demandé, puis vous avez trouvé l'endroit où il avait trouvé la chose.
Ah oui, c'était sur l'embarras de Lacan vis-à-vis de, des femmes et des vérités.
Alors allez-vous maintenant, puisque vous êtes ensemble.
La citation de Lacan, je vous ai indiqué où elle se trouvait. C'est une leçon que je considère difficile, moi. Il y a énormément de choses dans cette leçon. Et il me semble qu'il y a des choses qui se font écho dans nos deux exposés. Parce que ce qui me revient en le disant, c'est la dernière citation que je vous donne sur la vérité et la connerie.
Oui, ben oui, j'ai noté ça aussi.
C'est...
Ça peut s'entendre différemment.
Oui. Ben, il est très précis là, Lacan, parce qu'il dit que on dit de quelqu'un, quand on dit de quelqu'un qu'il déconnaît, et il insiste là, il fait le lien avec la connaissance. Donc on voit bien que ça touche à la question aussi de quelque chose du savoir. Il est très précis, il le situe côté féminin, hein, quand même. La connerie, il parle du con explicitement. C'est pas seulement la bêtise.
La déconnaissance.
Et la déconnaissance, c'est ça. Donc je trouve que... Bon, c'est...
Ils sont quand même un peu décourageants, là, quand même. Quand ils parlent de l'amour comme ça, c'est un peu décourageant. Hein. Ça vous fait pas un effet comme ça?
C'est sûr que
ça
ne participe pas à l'idée du blabla sur l'amour. C'est chaud, mais ça permet peut-être. Enfin, c'est quand même la clinique de tous les jours.
Oui, mais ce qui est bien, ce que je trouve bien, c'est que c'est des hommes qui s'en préoccupent en ce moment. C'est étonnant. Enfin, les intervenants qu'il y a eu, c'est surtout des hommes qui posent.
Oui, qui sont.
Comme quelque chose qui leur reste en travers de la gorge, même bon, jusqu'à dit Lacan.
Avec, c'est pas avec ton argumentation que ça passe mal le côté femme.
Oui, aussi.
Oui, pourtant, il n'est pas. Spécialement plus sévère.
Je peux vous raconter un ragot de...
Juste parce que pour la question, c'était pour l'embarras qu'il mentionne dans la sonde encore, l'embarras partagé pour une femme et la vérité. Je pense que ça, c'est ce que j'ai travaillé qui m'a fait penser, c'est qu'il est autant embarrassé, c'est le côté pas tout qui l'embarrasse, c'est-à-dire que la vérité a son côté pas tout, donc il ne peut que se nous dire, et il y a le côté pas tout de la femme par rapport à la jouissance qui n'est pas phallique. Et donc je crois qu'il y a quelque chose qui est, donc cette analogie entre l'un et l'autre qui fait que qu'il est embarrassé, enfin il est embarrassé au sens que ça questionne, et puis il va, et c'est ce que finalement. C'est ce que j'ai essayé de faire émerger, c'est cette part. La vérité qui ne se dit pas, qui ne passe pas par les dits de la vérité, qui passe par autre chose, pas par les signifiants, qui constitue le savoir inconscient.
Je te laisse plus dire un ragot, mais pour détendre un peu l'atmosphère, c'est-à-dire que c'est un ragot que j'ai de première main, la cantinée. Dîner chez sa femme, enfin, là où il a habité en principe, aux trois rues de ville, Sylvia Bataille. Et au moment, il y avait quelques personnes à table, pour ça que j'ai eu l'information. À un moment donné, elle s'est tournée vers lui, elle lui dit: mais pourquoi restons-nous ensemble? Vous ne me parlez plus jamais. Et dans les jours qui ont suivi, il a pris ses bagages, puis il est allé s'installer dans son cabinet où il dormait. Il ne retournait plus aux Trois-Rivières. Voilà.
C'est un peu ça.
Voilà, tu pourras prendre ça comme ça.
Oui, ça illustre.
Ce qui montre qu'il est, il sait ce que c'est que ces histoires de dire. Et...
Ah ben, je pense, oui. Il a une certaine expérience.
Oui, mais quand même, on peut quand même. Je suis là-dessus quand même.
Oui, ben oui, allons-y.
Mais j'ai l'impression que ça va sans dire, ça, va, ça ne va pas sans dire. Il le disait aussi au choix du sexe. Aussi.
Oui.
Donc là, là, tu as insisté sur la... Du côté de l'amour, pour l'homme, l'amour, ça va sans dire. Et pour la femme, ça ne va pas sans dire. Le choix du sexe.
Dans l'amour, il n'y a pas de sexe, c'est ce qu'il dit lui-même. Et alors, il y a une définition de l'amour qui est quand même... dont on ne parle pas, mais qui est très intéressante, c'est que Lacan dit que l'amour, c'est l'imaginaire spécifique de chacun. Alors, comment vous entendez ça ?
La fantasme.
Hein ?
Non,
non, c'est pas le fantasme. L'amour, c'est l'imaginaire spécifique de chacun. Alors, c'est quoi l'amour spécifique ? C'est le corps, non ?
Oui,
c'est le corps, non ? L'imaginaire spécifique, c'est le corps. Donc,
justement, c'est
l'amour, c'est une question de corps.
Et comment se représente ?
Enfin, ce que j'ai essayé de dégager, c'est qu'il y a l'amour tel qu'on en parle de façon la plus courante, effectivement, qui est ce qui est centré sur l'imaginaire, c'est-à-dire sur le corps, sur la forme du corps, le corps étant du côté homme, l'enveloppe aussi de l'objet.
Oui.
D'accord ? Donc, c'est pour ça que ça, de ce côté-là. Ça s'entend comme ça, mais simplement là, le glissement, enfin le déplacement qui opère, c'est de dire qu'en fin de compte, c'est pas l'amour, ça, c'est le désir et la jouissance. L'amour, ça relève d'autre chose. C'est comme ça que j'ai compris tout le développement. Sinon, si on confond si on va l'un sur l'autre, il n'y a plus rien qui se différencie, qui se tient. Donc. C'est quand même que il le dit de façon explicite, hein, c'est que le discours de l'époque, alors bon, je pense que peut-être maintenant on pourrait quand même corriger les choses, parce que entre ce qu'il pouvait dire de l'époque, le discours de l'époque qui justement a opéré ce déplacement et a poussé le désir pour y mettre l'amour, qui est aussi certainement la conséquence aussi de la civilisation judéo-chrétienne. Je pense que ça tient moins la route à notre époque, où quand même la distinction entre désir, jouissance et amour, enfin, surtout désir et amour, se fait quand même beaucoup plus facilement, enfin, et beaucoup plus perçue par les sujets que peut-être l'être à l'époque.
Question de référence, l'amour en tant que c'est l'imaginaire spécifique de chacun, c'est où ?
Non, c'est une citation.
Ouais,
que je travaille en permanence, donc j'arrive, tu n'arrives pas à résoudre ce truc-là. Je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Et maintenant, ça ne va pas mieux ?
Hein ? Non, je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Elle est tirée de quel séminaire ou de quel écrit ?
Là, il faudrait que je vais pas rechercher maintenant, mais
si tu t'absences,
vous pouvez le trouver dans mes thésaurus qui sont sur mon site.
La citation texto. Quoi.
Oui, vous l'auriez.
D'accord.
Oui.
Merci.
C'est une citation texto. Parce qu'il parlait, Lacan parlait à son séminaire d'un refleurissement de l'amour. Hein. Il ne faut pas oublier ça. Il ne parlait pas de l'amour comme étant un ravalement de la vie et choses comme ça. C'était au contraire. Très, très reconnu dans le sens de justement que ça pourrait. Il faudrait expliquer ça, que ça existe. Pas oublier qu'il a parlé de l'amour courtois et qu'il a beaucoup élaboré de travaux sur l'amour courtois. C'était une pratique sociale, hein, mise en scène pour que les gens participent collectivement à ce qui se passait. C'est très important comme chose. Hein. Nous, on a Facebook, c'est pas un problème.
Facebook.
L'amour courtois, ça me semble relever de ce qu'il développe. Il la désire, il l'aime. Parce que justement, il se contente simplement de la perception de l'objet, et, enfin de son propre objet et chez l'autre, mais et ça lui suffit du côté pas.
Mais la dame, c'est la chose.
Oui, ça va, ça. L'amour pour toi, là, ça illustre de ça va sans dire.
Ça participe de se mettre des obstacles et des techniques de la routine. Oui. Le déclin dans le.
Oui, aussi. Oui.
L'éthique. La barrière à la puissance.
Oui, oui. Ben oui, c'est pour ça que je disais que la dame, c'est la chose, il parle de bon voisinage. Encore fois, c'est du côté du vieux François, c'était un bon voisinage. Et le voisin, c'est la chose. La chose la plus proche, c'est la chose. D'Asdine.
Il dit aussi que la psychanalyse est à la place de l'amour. Hein. Pas oublier ça, c'est ça, il dit ça dans le transfert, c'est pour ça qu'il y a le transfert, qui est un amour vrai, authentique, qui ne reproduit pas un amour ancien qui est actuel dans la cure.
Du savoir.
Hein ?
Juste que c'est...
Hein ? C'est à la place de l'amour.
Oui, parce que c'est la même structure, au sens que ça s'adresse au savoir, enfin, c'est quelque chose qui s'adresse au savoir supposé de l'autre sur...
Inconscient.
Oui, sur sa vérité. C'est dans le transfert, ça c'est précis, c'est le désir de savoir de l'analysant, c'est un désir de savoir la vérité. C'est pas un désir de savoir le savoir de la conscience. C'est plutôt, un désir de non-savoir. Enfin, quelque chose, il y a deux registres là. Pour ça, il est dans le. Pour ce, je crois que son affaire du dire vrai, qui dissocie dire de la vérité et savoir inconscient, ça permet justement de bien différencier les deux.
Non, je trouve que ça, vous l'avez bien montré dans votre travail. Cette analogie entre finalement l'amour de transfert et ce que vous avez sur l'amour. Ce que je relevais, mais je ne sais plus si vous l'avez dit, c'est à la fin du séminaire 20, lorsque Lacan dit que ce qui fait le drame de l'amour, c'est de passer de la contingence à la nécessité. C'est à la toute fin du séminaire 20, il dit que ce qui fait le drame de l'amour, c'est de passer de la contingence de la rencontre à la nécessité. Et je trouve que on reprend tout ce qu'il a pu dire dans le séminaire Le Transfert sur l'amour au sens de la philosophie, de la complémentarité, de faire du un, etc., on tombe du côté de la nécessité, il me semble.
Oui, oui.
Alors que ce qu'il introduit avec le NRS et avec les catégories de jouissance, c'est une relation qui peut avoir lieu entre deux, je ne sais plus comment il faut dire, parce que deux par l'être, mais où chacun est confronté à un point de solitude. Quelle que soit son anatomie, finalement.
Oui, oui, parce que...
Parce qu'il me semble que le point intéressant, de mon point de vue, je soumets ça à la discussion, mais il me semble que le point intéressant, c'est de savoir si on le situe, les deux partenaires, quelle que soit l'anatomie, côté gauche, un côté gauche, un côté droit, ou les deux côtés droits, en fonction de la rencontre avec ce point que vous avez indiqué, qui marque S de grand tabaret.
Je
Le soumets à la discussion.
Bon, là, dans l'axe pris par l'ensemble de ces propositions, il s'agit là des rapports hommes-femmes, entre sexués, entre l'un qui se situe à gauche et l'autre qui se situe à droite, quel que soit le sexe anatomique. Et il s'agit de. De ça, toutes les questions.
Position.
Ah bah si, tu dis non, mais démontre-le.
C'est pas homme-femme, droite et gauche, c'est la jouissance masculine et la jouissance féminine. Ça n'a rien à voir avec homme-femme.
Pour ça, je ne te parle pas de l'anatomie.
Non, mais moi non plus.
Alors, vous êtes d'accord.
Oui, je sais plus.
Il y a quand même, c'est un peu équivoque cette histoire-là, parce qu'il situe ça aussi comme homme et femme. Absolument, c'est pas du tout simplement la jouissance, chose comme ça. C'est déjà très problématique, justement, de résoudre la question du choix de son côté, ce qui ne dépend pas de l'anatomie. C'est vachement compliqué à comprendre ça. On dit ça, mais ça ne dépend pas de l'anatomie. Alors que, par exemple, les hommes, on sait qu'ils ont une jouissance phallique dans l'organe et que c'est un mystère de la jouissance pour les hommes. On ne sait pas pourquoi cet organe est le siège d'une jouissance spécifique à l'homme, qui le définit et donc et qui l'éprouve et qui l'entraîne à faire tout ce qu'il fait. Hein. C'est pas facile à comprendre. Après, choisir le côté femme quand on est indépendamment de l'anatomie, on ne comprend pas ce que ça veut dire.
Il me semble que si on revient aux fondamentaux, j'ai envie de dire, je reviens à Freud qui dit il n'y a qu'une seule libido, Lacan part de là. Au fond, Lacan montre qu'il n'y a qu'un sexe. Du côté du langage. Et d'ailleurs, dans l'étourdi, il le dit explicitement quand il parle de Simone de Beauvoir, hein, il la traite de sotte parce qu'elle parle du deuxième sexe. Donc, on peut en déduire quand même qu'il n'y a qu'un sexe du côté du langage. Et puis, cette jouissance qu'il ne faudrait pas, comme il dit, dont il est impossible d'en dire quelque chose, et avec chacun. Avec laquelle chacun se débrouille dans son rapport au sexe et au langage, du coup. Enfin, moi, je le comprends comme ça.
Oui, c'est pas tout dans la jouissance phallique.
C'est exactement.
Ça n'exclut pas la jouissance phallique.
Absolument, non, mais c'est exactement ce que je veux dire. Voilà. Et ça, il me semble que l'expérience de la cure permet. D'en attraper quelque chose quand même.
La jouissance phallique, on comprend que c'est en rapport avec le signifiant et la langue. Mm-hmm. Mais la jouissance de l'organe dit phallique, c'est une vraie question. Hein. Et on ne sait pas comment c'est comme ça. On n'a pas d'explication à ça. C'est vraiment un mystère, ça. Et c'est prévalent chez les hommes comme jouissance. Hein.
Le mystère du corps parlant.
Hein?
C'est le mystère du corps parlant.
Oui, sur la remarque de la, effectivement, de l'amour qui permet qu'un rapport s'établisse entre deux par l'être, c'est quand même toujours à considérer dans la solitude de l'un et de l'autre. C'est pour ça que c'était le petit aphorisme de la femme qui n'est pas amoureux de son inconscient erre. Ça montre quand même que finalement l'amour, ça se passe entre soi et soi.
Alors,
évidemment,
une rallonge.
Mais donc quand même, effectivement,
c'est amoureux de son inconscient. Et il nous dit, pour la première fois de l'histoire, vous allez pouvoir ne pas être amoureux de votre inconscient, et vous allez pouvoir errer, justement, dans le même paragraphe. Il rallonge ça, tu verras, c'est très compliqué à comprendre ça.
Mais ça, je n'ai pas vu.
Tu l'as pas vu, par contre.
Non, je ne l'ai pas vu.
Mais c'est ça, c'est un passage très particulier de ce séminaire. Il parle Il parle des sodomites là, qui traversent le fleuve et les gens ils ont peur, les soldats ils ont peur. Il dit vous inquiétez pas, nous on peut pas périr noyés parce qu'on doit périr brûlés, donc on peut traverser sans risque. Il parle de qui n'est pas amoureux de son inconscient erre. Alors on se dit merde, il faut être amoureux de son inconscient. Il dit mais justement pour la première fois de l'histoire, vous allez pouvoir errer à cause. Et ne pas aimer votre inconscient, qui est un savoir plutôt emmerdant. Voilà. Il n'en fait pas il le dit explicitement. Hein. Je pense que c'est dans les noms du père. Je ne pas aussi.
Alors oui, parce que alors là, ça va dans l'inverse.
C'est vrai, hein, ça, je vous dis, c'est sûr. Hein.
C'est un peu difficile à suivre.
Parce que c'est tout le temps comme ça, c'est claquant. On s'attend à ça y est, on a trouvé un truc, tac, il sort un autre truc après.
Non, mais parce qu'il développe qu'il faut être la dupe de son inconscient, la dupe du rêve de son inconscient. conscient. Bon, après, être amoureux de son inconscient pour ne pas y aller, tout ça est cohérent. Là, tu es en train de nous expliquer que justement, c'est l'inverse.
Non, je n'ai pas dit que c'était l'inverse, j'ai dit qu'il dit autre chose. Il dit qu'il n'est pas amoureux de son inconscient R, et ensuite, il fait une rallonge. Mais vous, vous allez pouvoir, pour la première fois de l'histoire, errer, c'est-à-dire ne pas aimer votre inconscient. Votre inconscient qui est un savoir emmerdant, il le dit explicitement.
Bah, c'est affaire avec le réel. Hein, c'est le savoir qui a affaire avec le réel.
Moi, j'ai toujours l'idée que quand même, la fin de l'analyse, c'est pour arriver justement à ne pas aimer son inconscient, parce qu'il n'y a pas le côté passionnel qu'il faut avoir, mais arriver quand même à, au minimum, le supporter.
Si tu n'aimes pas ton inconscient, tu perds. Alors que si tu l'aimes, tu erres pas. Donc, c'est compliqué chez Lacan, le truc. Il déplie en deux passages. Hein. C'est
alors
le même
en mieux. Errer ou pas errer.
Mais il le dit explicitement, je suis étonné que ça n'apparaisse jamais.
Une fois qu'on en a fait le tour, on peut s'enlacer. Une fois qu'on...
Ça passait de quoi ?
Sur l'inconscient.
Ah bon ?
Mais il est toujours là. C'est gênant.
Ça lui est fascinant. Il peut devenir en merde. Il dit aussi pas d'amitié avec.
Comment ?
Il dit pas d'amitié.
Il dit aussi pas d'amitié avec.
Mais avec quoi ?
Avec
l'inconscient.
Oui, on ne fait pas copain-copain.
Alors, on
peut en
mettre un mais il ne faut pas.
Non, ça veut dire que quand vous êtes là, dans ce
qui se passe, c'est pas copain-copain.
Ce que vous touchez. Il n'y a pas d'amitié qui pourra vous sortir de là. C'est-à-dire que vous êtes dans la solitude absolue et qu'il n'y a aucun recours auprès des autres. C'est ça, qui est, c'est ça que ça veut dire, pas d'amitié. On a transformé ça en il n'y a pas d'amitié dans le groupe. Non, mais ça, c'est, moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, hein, ça.
Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas univoque. C'est pas on erre ou on erre pas. C'est,
non.
C'est que... C'est possible les deux.
Oui.
C'est, il y a une discontinuité.
Oui. Les deux.
Donc, d'abord, il y a la question de la contingence qui fait que ça rencontre peut-être pas l'inconscient. C'est la surprise aussi de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il y a quelque chose, je crois, d'un battement, d'une discontinuité qui fait que tout ça, ça, il y a des moments, bah, peut-être qu'il y a. On erre, et puis d'autres, on erre pas. Voilà, c'est. Je crois pas que ça soit ou l'un.
Non, c'est les deux.
Je crois que ça, c'est important. Ça permet de saisir un peu mieux les choses, il me semble. Voilà.
Oui, il y a une phrase que j'ai un peu de mal à saisir, c'est l'amour qui condescend au désir.
C'est pour par exemple. C'est l'exemple d'Alcibiade. Quand il fait son discours, il développe un discours de l'amour et il passe de l'aimé qu'il était à l'amant. Et à ce moment-là, Socrate lui dit ton désir, occupe-toi ton désir. Et son désir, son objet, c'est Agathon. Voilà, c'est ça. Mais c'est une métaphore. Parce que l'amour est une métaphore du désir aussi. C'est pas forcément opposé. Ça joue avec le désir aussi.
Mais c'est le terme de condescendre.
Nous ne parlons que du désir, que de l'amour et que de la jouissance dans la psychanalyse. Tout le reste, on baboche, on raconte n'importe quoi, les discours, la politique. C'est de ça dont on parle tout le temps. Et nous sommes les seuls à faire ça. C'est-à-dire les choses les plus importantes de l'histoire. De chacun, c'est ça. L'amour, la puissance et le désir. Comment ça se noue, comment ça se dénoue, comment ça se reprend, on est là-dedans tout le temps.
Mais je voudrais juste reprendre deux points. Lily, tu as commencé ton texte en disant que tu as questionné si le dire en entrant en analyse est le même qu'après. Et Patrick, tu parlais de l'incidence d'une analyse dans l'amour, par rapport à l'amour. Alors je me disais, est-ce qu'effectivement, la question que tu poses, toi, est-ce que se dire de fin, justement, se dire qu'il pourrait changer à la fin d'une analyse, enfin, quelque chose qui serait différent du dire d'entrée, c'est de ça dont il s'agit, comme c'est ça l'incidence sur l'amour qui le rend moins bavard, enfin, qui le rend
Non, c'est pas l'amour,
digne.
C'est pas l'amour qui est bavard.
Enfin, qui le rendrait plus digne.
Non, mais c'est pas l'amour qui est bavard. C'est qu'on bavarde sur l'amour.
Oui, ça rend un amour
plus digne que le bavardage qu'on tire sur lui. C'est ça.
Juste, oui, mais, non, mais il y a un effet quand même sur. Peut-être comme on aime.
Ouais. Non, mais ça, on est d'accord là-dessus. Simplement, c'est pas l'amour qui est. C'est pas le bavardage de l'amour dont il est question. Hein. C'est le bavardage sur l'amour.
Ce point, ce que je disais, c'était quand même traverser quelque chose de la castration incarnée, quelque chose qui passe par le corps. C'est par ce biais que j'ai essayé d'attraper ce qui fait qu'un dire est différent après la cure d'avant la cure. Et le dire, on le sait, il était disciple. Mais il y a quelque chose de ce point-là quand même.
Les effets, ce sont les effets qui disent qu'il y a
de ça. De l'incarner au niveau de la castration.
Pour répondre à Nadine.
Oui, écoutez, je crois que.
Attends, juste vais répondre à Nadine. Comment elle a posé la question, oui, ça m'a. Ce que permet l'analyse pour. Qui rend l'amour plus digne et de percevoir qu'en fin de compte, dans l'amour, ce qu'on vise, c'est la jouissance, c'est l'opération analytique qui permet ça. On arrive avec l'amour de transfert. Donc, un amour. Okay. Et on finit par, justement, laisser tomber le sujet supposé savoir, donc l'amour qui va avec, parce que l'amour de transfert, c'est la croyance au sujet supposé savoir. Donc, l'amour tombe, qu'est-ce qui reste? Il reste la jouissance. Il reste la jouissance qui, en fin de compte, était déjà enfin, l'objet petit a comme causant le désir et visé de notre jouissance. Donc, et c'est dont on aperçoit la chose dans l'analyse. Et ça, il n'y a que l'analyse qui permet ça. De laisser enfin, ce déshabillage de l'amour. Dans son bavardage pour reprendre la chose, qui est la façon dont on rentre, avec laquelle on rentre en analyse, et quand on en sort, on a un aperçu du fait de son expérience analytique et d'avoir aperçu que ce qui était derrière le sentiment amoureux que chacun, que beaucoup éprouvent vis-à-vis de son analyste, ben, c'était autre chose. Et cette autre chose, ça touchait à la jouissance.
L'amour, c'est une amouration aussi.
C'est ça.
Oui.
Non, mais faut pas toujours.
Non, mais là,
alors, il y a une chose.
Je suis en train de vouloir
répondre. Il faut qu'on fasse la distinction entre parler en savant de l'amour, du désir et de la jouissance, et en parler quand on aime, qu'on désire et qu'on obtient une jouissance de ça. C'est complètement différent. Or, l'expérience qu'on a dans la cure, c'est celle-là. C'est-à-dire que c'est en aimant, en désirant et en jouissant dans la cure. C'est pas un savoir artificiel pour parler des choses.
C'est
après.
Pas des connaissances.
Alors après qu'on élabore un savoir là-dessus dont on parle, c'est très problématique. Non ?
Non, mais, c'est ce que tu dis rejoint ça dit autrement. Jouir en parlant de l'amour, c'est tout ce qui développe sur la lettre d'amour. Lacan, en fin de compte.
C'est l'amour courtois, c'est ça.
Alors, dans la lettre d'amour, celui. Qu'est-ce qui est derrière la lettre d'amour? C'est la jouissance de celui qui l'écrit, la lettre d'amour. Et en fin de compte, la lettre d'amour, elle s'adresse. Évidemment, elle s'adresse. À l'être aimé, mais surtout à destination de celui qui l'écrit. Celui qui en profite le plus, c'est la thèse de Lacan. On peut être d'accord, pas d'accord.
C'est Gilles.
On peut être d'accord, pas d'accord. Mais en tout cas, cette thèse, c'est que le principal bénéficiaire de la lettre d'amour, c'est celui qui l'écrit.
Gilles,
le destinateur.
Destinataire.
Non, pas le destinataire, justement. Le destinateur.
Le destinateur.
Parce
oui.
qu'à un moment, il joue sur le destinataire.
Oui, mais comme il dit aussi, l'être d'amour arrive toujours à son destinataire, c'est ça qu'il dit.
C'est pas la
lettre. Oui, c'est la lettre.
C'est la lettre qui parle
à destination. À destination.
À sa destination. Ah, d'accord. Moi, j'étais plus sûr de la référence, mais là, je ne sais pas.
Ah, c'est les vieilles postes.
C'est l'univers de la lettre volée. La lettre, de toute façon, elle n'existe que parce qu'il y a le roi. Donc elle est déjà arrivée, même si on ne lui a pas encore rendu la lettre, c'est ça. C'est lui qui fait fonctionner la machinerie de la lettre volée. Hein.
Mais je voulais te demander, Lydie, donc il y a le savoir avant l'analyse, après l'analyse, et finalement ce qui reste. Comment tu dirais ça, ce qui reste? Bon, vous avez travaillé ça, j'ai l'impression, dans le Sud-Ouest. Moi, j'ai pas lu ce que vous avez écrit là. Mais donc, comment tu le dirais après le témoignage de la passe, peut-être après quelques années, je crois que vous invitez encore les AE pour voir ce qui reste. Est-ce qu'il y a un ce qui reste après la passe et ce qui reste
de l'expérience?
De l'expérience. Alors, comment tu dirais ça?
Il y a une date de péremption.
Ben, il a 3 ans 18 hein, pour les AE quand même. 3 ans, hein.
Ouais, c'est...
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est que si la passe est un fait de structure et non pas la signification d'une expérience dans le cadre d'une institution, eh ben on se fout en l'air avec ça. C'est un fait de structure et on ferait bien de s'intéresser, moi je le fais en tout cas, de s'intéresser aux AE et aux gens qui font faire la passe dans d'autres institutions que la nôtre. Et on pourrait même demander à ceux qui sont AE de s'arranger pour qu'on puisse avoir des contacts avec les AE des autres groupes. Parce que moi, je le maintiens, c'est un fait de structure, c'est pas l'institution qui décide, en sens, même si elle prête un dispositif pour que ça puisse se passer, parce que c'est pas simple, c'est comme ça que je vois la chose, moi. Et AE, pour moi, ça veut dire analyste de l'école. Mais attention, hein, ça ne veut pas dire analyse des forums du champ lacanien, enfin pour moi. Ça veut dire de l'école, de l'analyse, si ça existe une école, si c'est possible, comme Lacan en parle, comme des écoles de philosophie antique. C'est-à-dire que ça met en place quelque chose de l'école, de la psychanalyse. L'AME, c'est pas pareil. L'AME, il est certifié conforme dans les institutions.
Patrick, on va avoir une grande discussion au sujet de tout ça bientôt.
De
l'AE, l'AME, la PASSE.
Quand on va avoir ça?
Bientôt. En septembre, en début de l'année. Ah bon, c'est pour qu'elle réponde à la question.
Anita, il me semble que c'est... Je vais te résumer rapidement. C'est pour ça que j'ai amené cette citation sur l'incurable. C'est-à-dire que ce qui reste, c'est ce point rencontré dans la cure qui est de l'ordre de l'impossible à dire, mais qui reste irrémédiable. Sur ce point, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, que dans telle ou telle école, la dure 3 ans, 4 ans, 2 ans, etc. Mais moi, j'ai idée, c'est un peu le sens de ma contribution dans le travail dont je parle, j'ai idée quand même qu'il y a quelque chose qui ne peut pas s'effacer. Il y a un avant et un après. J'ai essayé de travailler ce point, et c'est un point qui m'interroge beaucoup, parce qu'on entend très souvent que la passe se recouvre très vite.
Oui.
Et c'est une question qui m'interroge vraiment, ça, parce que c'est, pour le moment, ce n'est pas le vécu que j'en ai, de quelque chose qui se recouvre, et j'ai vraiment idée qu'il y a un avant et un après, et que ça fait marque, enfin, bon, Patrick dit deux structures, peut-être, je le reprends du côté de ce que j'appelle la castration incarnée, parce qu'il y a quelque chose du corps qui est touché, mais bon, je m'adresse aussi bien à Patrick, puisque Patrick a eu cette expérience d'AE aussi.
Oui, donc, maintenant, ça date.
Bah justement.
Juste une question par rapport à cette notion d'incurable qui me semble importante. Est-ce que c'est quelque chose d'identique ou est-ce que c'est quelque chose de différent du symptôme qui reste en fin d'analyse. Enfin, le symptôme, parfois on appelle ça le symptôme fondamental, pour faire le pendant avec le fantasme fondamental. Est-ce que l'incurable dont tu as fait mention là, dans ton texte dont on parle, en quoi se distingue-t-il ou pas du symptôme dont on sait que c'est aussi un incurable.
Mais je pense que ça se rejoint. Je pense que ça se rejoint. Mais il y a quelque chose de la différence absolue rencontrée. Et bien sûr que ça a des effets sur la relation amoureuse. Enfin, de mon point de vue. C'est là où peut-être ça change un peu la donne du côté de l'amour.
Ça.
Je me demande quand même si ce n'est pas la fin de l'analyse dont on parle. Et là, eux, on trouverait quelque chose. Parce que finalement, la rencontre avec le réel, le symptôme dont on ne veut pas se défaire et l'incurable, c'est quand même une analyse menée à son terme. Donc là, dans son témoignage, aurait pu en apporter une espèce de preuve qui peut servir aux écoles. Mais est-ce que vous ne parlez pas aussi de la fin de la cure? Ou finalement, de structure?
C'est difficile.
Oui, est-ce qu'on peut vraiment faire un écart aussi précis?
Mais c'est une nécessité, cet incurable. C'est une nécessité. C'est un point de butée, sinon ça file.
Moi, je pense que quelqu'un qui a fait la passe,
ne cesse pas,
qui l'a éprouvé, soit dans un dispositif ad hoc qui lui a permis de se tenir, parce que le dispositif donne quand même la possibilité de s'accrocher à des choses qui tiennent un peu la route. Je pense que quelqu'un qui a fait ça, et ça peut se faire dans d'autres conditions, il y retournera toujours, ça lui reviendra toujours. Ça lui reviendra toujours. Il ira dans la passe. C'est pour ça que Lacan dit, moi je croyais que c'était passé, et ben non, il y reprend. C'est-à-dire que c'est un point, c'est un point que Lacan épingle de l'horreur de savoir. L'horreur de savoir, moi je la vois pas du tout du côté de j'ai appris des trucs terribles sur moi et mes parents. C'est pas ça. L'horreur de savoir.
Ça, c'est la castration. C'est de l'empire de sorcellerie.
C'est la castration.
C'est surtout un point de néant. Il y a du néant.
Ça tombe dessus. Ça tombe dessus.
C'est pas pour rien qu'il dit savoir comme enfer.
Oui, c'est ça. C'est dans le moment de conclure. Le savoir comme enfer.
C'est ça.
Bon. Avec tout ça, on est là, on a bien avancé.
On est toujours dans l'enfer.
Effectivement, c'est une structure. On ne peut pas en tirer grand chose.
Moi, quand même, avant de partir, j'ai une petite citation de Lacan qui vaut la peine, quand même. Parce que ça fait longtemps que la trimballe, c'est le sort de l'amour et du désir. Alors, voilà, je vous le cite. C'est dans. Pas noté là-dessus. Bon, c'est pas mal. C'est parce qu'il interpelle Hegel qui dit que c'est une erreur logique, une erreur de sujet. Je t'aime même si tu ne le veux pas. Et lui propose comme formule, je te désire même si je ne le sais pas. Alors voilà, je te désire même si je ne le sais pas. Partout où elle réussit, tout articulable qu'elle soit, à se faire entendre, celle-là, je vous assure, est irrésistible. Pour une fois, tu nous donnes un tuyau et une recette, vous allez voir, ça va loin. Et pourquoi? Je ne vous laisserai pas ceci à l'état de devinette. Si ceci était dissible, qu'est-ce que je dirais par là? Je dirais à l'autre que, le désirant, sans le savoir sans doute, toujours sans le savoir, je le prends pour l'objet à moi-même inconnu de mon désir, c'est-à-dire dans notre conception à nous du désir, que je l'identifie. Que je t'identifie, toi à qui je parle, toi-même à l'objet qui te manque à toi-même, c'est-à-dire que par ce circuit où je suis obligé de passer pour atteindre l'objet de mon désir, j'accomplis justement pour lui ce qu'il cherche, c'est bien ainsi qu'innocemment ou pas, si je prends ce détour de l'autre comme tel, objet, observez-le de mon amour, tombera forcément dans mes rêves. Formidable, non? Si vous voulez avoir capté comme ça un partenaire,
là, la recette.
C'est une recette, il le dit lui-même.
Quand tu parlais,
c'est... Alors, bon. Il est venu.
Non, c'était pour, je pensais que vous aviez fini. Pour faire une annonce. L'annonce, justement, puisqu'on parlait des AE, il y aura le samedi 13 mai la rencontre avec les deux AE nouvellement nommés, Elisabeth Tanner et Marie-Noëlle Jacob Duvernay, à la FACO de 15h à 17h, je crois. Voilà.